plus tarder, on va partager la parole de Dieu dans la continuité de ces quelques dimanches, avec cette nouvelle perspective, mois de janvier, des engagements, des résolutions dans nos cœurs. Et en fait, on avait vu, dimanche dernier, on avait vu quel avenir pour nous. Hein. Certains s'interrogent sur l'avenir que l'on peut avoir. Certains ont la curiosité de savoir ce qui va se passer durant cette année. Nous savons que nous avons un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Il pourvoit à tous nos besoins. Et comme c'est un Dieu de provision, j'aimerais partager avec vous ce matin, avec ce titre, Provision divine. Provision divine. Et donc, je crois de tout mon cœur que le Seigneur veut nous donner beaucoup de choses ce matin. J'en ai pris simplement que trois. Alors, ce sont des choses basiques. Sûrement que pour la plupart d'entre nous, ce matin, vous avez déjà entendu prêcher, je l'ai prêché sur les provisions de Dieu, ce que Dieu nous donne, entre autres, mais que nous puissions vraiment réfléchir à cela ce matin, et puis ressortir de ce lieu avec une parole de Dieu gravée au fond de notre cœur. Un verset d'introduction concernant les provisions de Dieu, c'est Philippiens chapitre 4, verset 19. Philippiens 4, 19. Voilà la technique. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Comment il va le faire ? Avec gloire. Par qui ? En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ici, et donc, c'est l'apôtre Paul qui va terminer cette épître qu'il a écrite. C'était une circulaire. Donc, et il est en train de dire, il finit comme en apothéose. Il est presque à la fin. Et mon Dieu, il pourvoira pour que nous puissions entendre, donc, des siècles plus tard, que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Il a pourvu, il pourvoit, et il pourvoira encore et toujours. Alléluia. Ces paroles, nous voulons les serrer dans nos cœurs. Et mon Dieu, quand il dit « et mon Dieu », il y a ce rapprochement. C'est Dieu qui s'est approché de chacun d'entre nous. C'est mon Dieu. C'est celui avec qui j'ai une relation réelle, concrète. Je m'approche pas de lui simplement pour demander à longueur de journée, à longueur de semaine, de mois, d'année, en disant Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, mais simplement réaliser la grâce que le Seigneur nous accorde, alléluia, de venir dans sa présence. Et mon Dieu, il fera quoi? Il pourvoira. Alors le mot qui est important ici, c'est à tous vos besoins. Et on a des besoins. C'est le Seigneur qui nous a créés. Il sait de quoi nous sommes constitués. Il sait ce dont nous avons besoin et il veut nous les donner. Il y avait un chant qu'on chantait il y a quelque temps. Je ne sais pas si vous le connaissez. Quand j'ai besoin d'amour, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin de grâce, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'une seconde, d'une troisième, d'une quatrième, d'une dixième chance, Seigneur, tu es là. Et tu pourvois à tous mes besoins. Et comme le Seigneur pourvoit à tous nos besoins, alors nous sommes comblés. On n'a pas besoin de regarder et de poser nos regards ailleurs que sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Regardez ce qu'il est dit. Il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Est-ce que vous savez que Dieu est riche? Alléluia. Vous le savez, vous l'avez expérimenté. Et celui peut-être qui entend ces paroles pour la première fois, sachez que Dieu est riche. Il veut nous donner la paix. Il veut nous donner la joie. Il veut nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Le Seigneur veut nous le donner. Et je passe sur le Seigneur est capable de pourvoir à nos besoins matériels. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous a déjà expérimenté dans une certaine situation, il y avait besoin que le Seigneur intervienne, situation matérielle, et le Seigneur est intervenu? Eh oui, on est plusieurs. Donc Dieu répond encore et toujours. Alléluia. Donc ces provisions, le Seigneur veut nous les donner et elles sont divines. Tout d'abord, la première des provisions, le Seigneur veut nous donner le pardon. Il veut nous accorder le pardon et c'est la provision pour notre passé. Tout ce qu'on a pu faire auparavant, le Seigneur veut effacer la dette. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin. Donc il y a un besoin universel de pardon. Il n'y a personne ici-bas sur terre qui puisse dire, Mais moi, j'ai pas besoin d'être pardonné parce que moi, j'ai jamais péché. On aurait tendance, nous, à mettre dans des catégories le péché. Peut-être, je sais pas, tuer quelqu'un, faire voler, ça, c'est des gros péchés. Par contre, dissimuler un petit mensonge par-ci par-là, ça, ce n'est pas trop grave. En tout cas, c'est pas comme ça que le Seigneur voit. Le Seigneur, lui, considère le péché comme manquer le but, manquer une cible, manquer le plan qu'il a formé sur chacun d'entre nous. On a tous besoin, le besoin universel de pardon. Il n'y a pas de distinction. Chaque être humain que la terre porte ce matin a besoin de pardon et du pardon de Dieu. Alléluia. On sait que la première cause et ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Parce qu'il y a une distance qui s'est créée quand Dieu donc crée l'homme et la femme et il leur donne le choix de pouvoir le suivre et de l'aimer pour ce qu'il est. Et donc, il leur laisse le choix avec cet arbre planté au milieu du jardin. Et puis, on sait qu'il va y avoir une désobéissance. Et à partir de ce moment-là, une distance se crée entre Dieu et l'homme. Et donc, chaque être humain, à cause du péché, ne peut plus se présenter devant Dieu. Cette distance, elle a été créée. Romains chapitre 3, verset 23. La plupart de ces versets, nous les connaissons tous. Ils sont pratiquement tous surlignés dans vos Bibles, mais c'est une réalité ce matin. On veut se souvenir encore et toujours de ces versets et de la puissance de ces versets. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché. Il y a plein de versets où il est dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs, tous sont pervertis. Mais ici, il est dit, car tous ont péché. Et comme ils ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Pour le mot privé, c'est ils sont loin de la présence de Dieu. La définition de privé, c'est il y a cette connotation de venir en retard, venir être trop tardivement, être laissé derrière dans la course. C'est ça la définition. D'être privé, c'est pas simplement être privé de dessert. C'est bien plus important ici. Être privé, être derrière dans la course. On a vite compris dès qu'on a été en âge de réaliser certaines choses que dans cette vie, nous sommes dans une course. Et dans cette course, le Seigneur désire plus que jamais que nous terminions cette course en vainqueur. Que nous terminions cette course avec cette couronne incorruptible qu'il veut donner à chacun et chacune d'entre nous. Une chose est certaine, et c'est là où rentre la foi. Une chose est certaine, c'est que quand on est dans la volonté de Dieu, alors je peux dire que je suis sûr que je peux gagner la course. Parce que je reste dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ma responsabilité, c'est de veiller, d'être toujours dans la course et ne pas me laisser distancer. Alors si ça s'arrêtait là, je veux dire, bon, je comprends très bien, mais il y a quelqu'un qui est là pour essayer de nous déstabiliser, de nous faire chuter dans cette course, et le Seigneur nous donne le Saint-Esprit afin de voir et de discerner là où il y a les pièges de l'ennemi. Et c'est ce que nous dit la parole. Donc, car tous ont péché, ils sont privés, ils sont loin, donc ils sont derrière dans la course. Dans la course de la vie. Donc, ils sont privés de la gloire de Dieu. Chaque fois que je tombe sur un passage de la parole de Dieu qui parle de la gloire, qui parle du trône de Dieu, qui parle de la présence de Dieu, personnellement, je peux pas rester insensible. Parce que je me dis, mais quand même, l'expérience qu'ont pu vivre certains hommes, ça nous est relaté dans la parole. Ce matin, par exemple, je pensais donc à Ésaïe chapitre 6. À un moment donné, il a une révélation de qui est Dieu. Il dit, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur. Alors, comment il a pu le voir? Ça, c'est un mystère, hein. La parole de Dieu ne va pas au-delà. Une chose est certaine, c'est que personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est impossible. Mais en tout cas, donc, il a cette révélation, et puis, il a, donc, cette image. Je le vis, il était assis sur son trône. Les pans de sa robe, donc, étaient là, en découlé. Première réaction d'Ésaïe, malheur à moi. Malheur à moi, mes lèvres sont impures. Si certains pensent un jour se retrouver devant Dieu et lui dire les quatre vérités, la Bible nous dit que toute bouche sera fermée. Personne n'aura plus rien à dire dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun effort humain qui ne peut effacer notre culpabilité, parce que nous sommes tous coupables devant Dieu, c'est ce que nous dit ce passage. Alors, quand on le reconnaît, on peut faire appel à Dieu en disant, « Seigneur, j'ai besoin absolument de ton pardon. J'ai besoin que tu effaces donc cette dette que j'ai envers toi. » Plusieurs ont élevé la voix ce matin, d'autres l'ont fait dans leur cœur. Et plusieurs ont dit, « Seigneur, je te remercie parce que tu as effacé mon péché. Tu as effacé ma condamnation. » Et ça réjouit notre cœur de savoir que désormais nous sommes libres. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On va le lire un peu plus loin, mais aucun effort humain ne peut effacer notre culpabilité. La seule chose que nous ayons à faire, c'est le point suivant, c'est d'accepter le pardon qui est offert en Christ. Il est offert pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas une mesure de pardon pour l'un et une autre mesure de pardon pour un autre. Le pardon de Christ, il est offert à chacun d'entre nous si seulement on ouvre notre cœur et on accepte ces choses-là. Elles sont aussi simples que ce qu'on est en train de partager là ce matin. Le pardon offert par Christ, même pardon, même grâce qui nous est accordée. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Si nous confessons, si nous avouons nos transgressions, si on se reconnaît comme pécheur, alors il y a une conséquence à cela. Il est dit que lui, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner. Et il n'y a pas de plus grande joie que de se savoir pardonner, que de se sentir pardonné. Par contre, le contraire existe aussi. Quand on n'est pas, on n'a pas notre cœur au Seigneur, il y a une culpabilité qu'il a. Il y a comme une épée au-dessus de notre tête qui peut tomber à tout moment, parce que nul ne sait, nul n'a la capacité au milieu de nous ce matin de dire « je vais vivre tant de temps, tant d'années, encore, il me reste encore du temps ». Jamais. Nous n'avons pas cette capacité. On a cette capacité simplement de confesser. Je remarque ici que si nous confessons nos péchés, dans un premier temps, pas un homme. Souvent, la confession, on la réduit simplement à venir auprès d'un homme, un homme de Dieu, et puis confesser nos péchés. La première des choses, c'est de confesser à Dieu. C'est ma responsabilité, c'est de reconnaître, « Seigneur, je suis un pécheur. » Alors, cette bonne nouvelle, un autre verset dit que quand on reçoit cette nouvelle, elle vient procurer dans notre cœur la tristesse. La tristesse d'avoir offensé Dieu. Mais ensuite, il y a le relèvement. Il y a la joie d'avoir été pardonné. Le pardon n'est pas une émotion. Le pardon est une réalité juridique et spirituelle. Alléluia. Dieu efface, il purifie et il restaure. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Donc, dans l'épître de Paul aux Colossiens, il est dit qu'il y avait un acte légal, un acte juridique, et nous appartenions donc à l'adversaire. Et le Seigneur, en fait, il a déchiré cet acte, et désormais, nous sommes libres de venir dans sa présence. Amen. Et ça procure vraiment de la joie. Le pardon, donc, n'est pas une émotion, mais une réalité juridique et spirituelle. On ne vit plus en coupable. On vit en personne libre. Amen. Dieu efface. Et quand il nous accorde ce pardon, quand il nous offre ce pardon, il y a des effets, il y a des conséquences à ce pardon. Premièrement, les effets du pardon, la libération de la culpabilité. La culpabilité disparaît. Le rétablissement de la relation avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Il y a cette réconciliation qui est faite par cette foi qui est mise en action. Et puis, un autre effet du pardon, Il nous donne une nouvelle identité. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu. C'est ce que nous dit la parole. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 12 nous le dit également. Donc Jean chapitre 1, verset 12 nous dit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes. C'est une certitude. Et en fait, désormais, comme nous sommes enfants de Dieu, nous avons des droits et nous avons des privilèges. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Quelle est l'application pour nous, une fois qu'on a reçu ce pardon? C'est de marcher dans la lumière. C'est de continuer d'être dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est être constamment en mouvement. C'est quand je marche, c'est pas le temps de somnoler, c'est pas le temps de m'arrêter. Quand je marche, je suis en action. Donc, marcher dans la lumière, alléluia, amen. Et d'ailleurs, le Seigneur va nous faire cette déclaration extraordinaire. Il dit, mais désormais, vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est un titre qui est beau, hein, à porter. Vous n'êtes pas convaincu, mais moi oui. Hein. Mais je sais que c'est, les paroles travaillent vos cœurs et qu'on est en train de réfléchir. Mais de temps en temps, hop, un petit rappel, parce que la hantise du prédicateur, c'est de voir certains piquer du nez, et ça c'est terrible. Donc, que nous soyons attentifs. Donc, marcher dans la lumière, être en mouvement vers la direction, vers cette lumière. C'est également, quand on reçoit ce pardon, en fait, c'est de refuser la condamnation, parce qu'elle n'existe pas. Il a effacé l'acte donc qui nous accusait, ce que je vous disais tout à l'heure. Et Romains, chapitre 8, verset 1er, nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Amen. Si toi, tu es là, tu as fait cette démarche, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, alors il n'y a plus de condamnation. Le reste, le contraire, est valable également. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, la condamnation est sur ta vie. La volonté de Dieu, c'est qu'au travers de ce message, plusieurs prennent la pleine connaissance de ce qui pourrait arriver, c'est de se retrouver devant le Seigneur et être condamné pour l'éternité. Dieu n'est pas résolu à cela, c'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est de nous sauver. Amen, que son nom soit béni. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On doit refuser la condamnation. Nous sommes libres. Pourquoi on dit ça? Et c'est martelé dans la parole, dans le Nouveau Testament. Il est dit, mais désormais, vous êtes libres. Plus besoin de marcher en tant que prisonnier, en tant que voilà, en étant coupable de quoi que ce soit. Le Seigneur nous a libérés de tout. De toute condamnation. Et désormais, nous sommes dans cette liberté. Alléluia. Refuser la condamnation et également pardonner. Et quand on est pardonné, on ne peut pas garder l'offense qu'on a pu nous faire. À notre tour, nous allons pardonner. Pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Peut-être que quelqu'un pourrait dire, mais pasteur Alex, est-ce que je dois pardonner à celui qui voilà m'a fait du mal? Voilà, il y a quelque chose de sérieux dans ma vie. Et je dis oui, parce que c'est la parole de Dieu qui dit oui. Parce qu'en fait, ces choses-là, s'il y a ce refus de pardonner, ça va nous détruire. On va tomber dans une spirale qui va nous pousser vers le fond. Est-ce que ça veut dire de renouer encore avec celui qui nous a fait du mal? C'est pas ce que dit la Bible. Mais c'est de relâcher. On en a discuté lundi hein, en CA, que le pardon, c'est quelque chose qui libère. Il me libère. Et je suis complètement libéré de tout ça. Il y a des choses qui sont faciles à pardonner. Il y a d'autres qui sont un peu plus difficiles. Et là, on a besoin d'une volonté personnelle en disant, Seigneur, je décide de pardonner, même si c'est difficile. Le Seigneur ne nous a jamais dit que ça allait être facile. Même si c'est difficile, Seigneur, je veux me soumettre. Et derrière ça, vous allez voir comment le Seigneur va vous libérer de ce qui vous tenait. Et quand on sort de ces choses-là, c'est là où on réalise, on se dit, mais finalement, ces choses-là, elles me tenaient. Elles me tenaient captives. Et il me semblait que j'étais dans une certaine liberté, mais je ne l'étais pas. Alors, la parole, elle va encore plus loin. Il dit, mais si on t'a fait du mal, accorde le pardon. Si toi, tu as fait du mal, il faut que tu ailles te réconcilier. Aujourd'hui encore, parmi nous, il y a des personnes, on a pu l'expérimenter dans différentes églises, où il y a des personnes qui font, voilà, il y a eu de l'offense, l'une ou l'autre, il y a eu de l'offense, on a renoué la parole, et puis on fait comme si le pardon avait été accordé. J'aimerais vous dire que ce n'est pas le pardon de Dieu, ce n'est pas le pardon biblique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir dire les choses. Mon frère, ma sœur, mon ami, je t'ai offensé. Je te demande pardon, ça coûte. Vous savez pourquoi ça coûte? On est tous pareils. À cause de l'ego qui est là. L'ego, la chair, elle ne voudra jamais. Vous savez ce que va faire la chair? Elle va lever le poing en disant, mais j'ai raison. C'est moi qui ai raison. Et puis on va étaler. Voilà, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et donc on va exposer tout ce qu'on a subi. Mais quand on accorde le pardon, alors on est libéré de ce poids. Et peut-être que cette parole s'adresse à quelqu'un ce matin. Tu as de la difficulté à pardonner. Que tu puisses prendre ton courage à deux mains. Et puis aller trouver les personnes. La personne. Dire, mais moi je te demande pardon. Après ça ne veut pas dire qu'il faut ressasser le passé. Remettre sur le tapis. Oui mais c'était à l'époque, c'était par rapport à ceci, c'était par rapport à cela. Ça, on doit évidemment le bannir. Mais simplement, c'est ce que l'apôtre Paul appelle crucifier sa chair. C'est ça, en fait. Alors, il n'y a rien de facile. Je vous promets, on est passé par là. Il n'y a rien de facile. Mais quand on le fait, alors on vit cette pleine liberté d'être au Seigneur. Alléluia. Donc voilà, ici, la provision de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est le pardon. Et toi, mon frère et ma sœur, qui depuis des années a donné ta vie au Seigneur, n'oublie jamais que tu as été pardonné, que tu as été gracié, que le Seigneur a pris cette condamnation, il l'a déchirée. Alléluia. Et alors, on doit se réjouir, on doit glorifier le Seigneur par rapport à tout cela, comme nous avons fait ce matin. Alléluia. Ce que le Seigneur nous donne, donc, ça c'est donc la provision pour le passé. Ensuite, il nous donne la paix. La paix, c'est la provision pour notre présent. On a la capacité, on a la possibilité, une fois que nous avons été pardonnés, de vivre en paix. La paix sous différents aspects. Tout d'abord, la paix avec Dieu. C'est le résultat direct du pardon. Une fois qu'on est pardonné, vient avec le pardon une paix. Et cette paix, elle est extraordinaire et merveilleuse à vivre. Romains chapitre 5, verset 1 nous dit « Étant donc justifié ». Par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. C'est parce que je suis justifié que j'ai la paix avec Dieu. Alléluia. Étant donc justifié. Justifié, c'est-à-dire rendu juste. Alors tout à l'heure, je vous disais que il n'y a pas de juste. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que c'est la doctrine de l'imputation. C'est-à-dire que Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix du calvaire, a donné sa vie pour les péchés de l'humanité tout entière. Et comme il a donné sa vie pour l'humanité tout entière, lui, le juste, du moment qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, je suis justifié. Je suis rendu juste. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Tu es rendu juste, mon frère et ma sœur, par la foi. Amen. Pourquoi? Être justifié, ça sous-entend que quelqu'un d'autre a payé pour la pénalité. Une pénalité pour ma vie. Et quelqu'un d'autre a payé pour moi. On aurait de quoi louer le Seigneur pour cet acte accompli à la croix du calvaire qui ce matin me rend juste et je suis justifié. Alléluia. Et c'est lui qui a payé. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de gratuit. Hein. Vous avez remarqué. Hein. On paye pour tout. Hein. Mais le salut est gratuit. Il est gratuit pour qui? il est gratuit pour nous. Mais pour Dieu, ça a coûté quelque chose. Il a fallu qu'il donne son fils Jésus à la croix du calvaire. Et ce matin, nous nous en sommes rappelés en prenant ce pain et ce vin. Nous nous sommes souvenus que Jésus a donné sa vie pour ma vie. Frères et sœurs, ça c'est la parenthèse. N'oubliez jamais, on a le reste de la semaine pour demander au Seigneur quand on a des besoins. Mais quand on se réunit le dimanche matin, pensez que la louange est orientée vers le Seigneur et apporter la louange, c'est quoi? C'est dire ce qu'est le Seigneur. Il est grand, il est puissant, il est merveilleux. Voilà, c'est ça. Et laissons. Je vous promets que le Seigneur, il s'occupe de nos besoins. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Et laissons les requêtes. Est-ce que ça veut dire que pendant un culte, on ne peut pas apporter des requêtes? Jamais de la vie. C'est pas mon propos ce matin. Mais on doit s'orienter vraiment à remercier le Seigneur pour la croix du calvaire, pour le pardon des péchés et pour la paix que cela procure dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Quelqu'un d'autre a payé. Cette paix n'est pas un sentiment non plus. C'est un état spirituel. J'ai la paix avec Dieu. Et puis, le second point, j'ai la paix de Dieu. C'est la paix, c'est sa paix qui m'est donnée. Une paix intérieure qui dépasse toute intelligence. Ce verset-là, vous l'avez aussi. Ça vous est venu, Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui dépasse, c'est ce que veut dire, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Elle gardera. Alors, je regardais, j'aime beaucoup faire ça. Faites-le, hein, ayez ce réflexe d'aller dans la profondeur, de regarder l'étymologie du mot. Qu'est-ce que ce mot veut dire? Parce que nous, on a une définition, une interprétation d'un mot en français, mais dans l'original, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, moi, j'ai regardé, donc, garder. Il gardera vos cœurs. Il gardera. Alors, ici, avec cette connotation, de garder comme un soldat armé proche de vous. Et là, nous avons une image qui est un peu plus profonde. Il gardera, il mettra un garde à côté de nous. Et donc, pour garder quoi? Le cœur et la pensée. Le cœur, c'est le siège des sentiments. C'est là où tout se passe. On peut être insensible ce matin à l'amour de Dieu. Mais il y a une réalité, c'est que quand on réalise ces choses-là, alors notre cœur est touché, notre cœur est bouleversé et on réalise l'amour qui nous a été donc accordé. Le cœur, c'est quelque chose de précieux. Vous connaissez aussi ce verset, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les paroles de la vie. Que le Seigneur soit béni. Alors le cœur, on doit le garder, on doit le protéger. Protège ton cœur. Mais ça ne s'arrête pas là. Et protège également tes pensées. Combien de pensées traversent notre esprit simplement dans une seule journée? Vous avez remarqué que des fois, on veut ne plus penser à certaines choses. C'est plus fort que nous, ça nous domine. Ces pensées qui sont là et qui nous assaillent. Et le Seigneur dit, mais il mettra un garde près de toi, près de ton cœur et de tes pensées. En fait, là aussi, il y a la définition de pensée. Il y a cette image de ne pas ouvrir une digue. Vous savez ce qui se passe hein, quand on ouvre une digue. Il y a une inondation. Et le Seigneur ici est en train de nous avertir. De dire, mais attention à vos pensées. Un peu plus tard, il dira, qu'il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que si on laisse faire, s'il n'y a pas une réaction de notre part, alors nos pensées vont toujours nous attirer vers tout ce qu'il y a de négatif et vont nous faire chuter. Vous l'avez remarqué, tout commence ou commencera toujours par une pensée. Si elle est nourrie, elle va nous tirer vers le bas et la digue sera ouverte et on sait les ravages que cela peut faire. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les infos. Hein. Quand il pleut, les digues qui rompent et l'eau qui s'engouffre partout avec les dégâts que ça peut faire. Alors, préservons nos cœurs, le cœur, les pensées, quand on est dans la tempête. Parce que quand on est dans la tempête, quand on est dans la difficulté, quand on est dans les épreuves, C'est là où finalement nos yeux et nos pensées se portent ailleurs. On en a parlé dimanche dernier. Seigneur, où es-tu? Je suis dans l'épreuve, que fais-tu? Des fois même, à lever le poing, Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Nous devons amener toutes ces pensées captives, même quand nous sommes, et surtout quand nous sommes dans la tempête. Alors oui, la paix, elle ne peut venir que de Dieu. Cette paix qui dépasse toute intelligence. Amen. Et ensuite, la paix, une fois qu'on a cette paix, la paix de Dieu, la paix avec Dieu, et on est en paix dans nos relations, les uns avec les autres. Nous sommes des artisans de paix. Nous sommes de ceux qui travaillent de leurs mains pour garder le lien de la paix. Alléluia. Autant que cela est possible. Vous vous souvenez de ce passage. L'esprit produit la paix comme un fruit, comme le quartier d'un fruit. Galates 5, 22, que vous connaissez également. La paix. Le Saint-Esprit, quand il est dans le cœur, dans la vie de quelqu'un, va produire la paix dans les relations. On n'est pas en guerre avec qui que ce soit. Et c'est là où on comprend ce passage. Donc, d'aimer nos ennemis. Comment c'est possible, Seigneur? Aimer mon ennemi, c'est pas possible. Quelqu'un qui me fait du mal. Mais quand on a cette paix qui vient de Dieu, alors oui, c'est possible. Plusieurs au milieu de vous, parce que je connais vos témoignages, je pourrais venir ici et témoigner que oui, ces paroles, elles sont vraies. Parce que dans nos relations, à un moment donné, il y avait des choses qui étaient là, et puis l'Esprit a produit la paix comme un fruit à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et nous sommes appelés à être des artisans de paix. Matthieu, chapitre 5, verset 9. Le plus grand discours du monde, les béatitudes. Jésus qui va enseigner la foule. Il est au début de son ministère. Et au verset 9, donc Matthieu 5, verset 9, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Si je vous pose la question dans l'autre sens, qui veut être appelé fils de Dieu? Il faut procurer la paix. Pas ma paix, mais la paix qui vient de Dieu, qui surpasse toute intelligence, on l'a vu. L'application pour nous, concernant cette paix, nous devons déposer nos inquiétudes devant Dieu. Gardez cette paix. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ce verset, il a besoin donc d'éclairage pour nous tous. Ne vous inquiétez de rien. Ici, ça sous-entend que des fois, on peut s'inquiéter. Mais il y a cette exhortation. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne connaît pas, il connaît, mais il veut qu'on puisse, encore une fois, le verbaliser et dire, Seigneur, je viens te faire connaître, voilà, mes inquiétudes, ce qui pourrait m'assaillir, je te les apporte. Comment? Par des prières, donc des demandes, par des supplications, Seigneur, interviens, mais également avec action de grâce, ça sous-entend, Seigneur, je sais qu'à un moment donné, tu vas exaucer cette prière que je suis en train de t'apporter avec action de grâce. Et on commence à bénir le Seigneur, à le remercier déjà pour l'exaucement de notre prière et de nos supplications. Alléluia. Donc, déposer nos inquiétudes devant le Seigneur et puis cultiver la paix dans nos paroles et nos attitudes. Je suis sûr, nous tous qui sommes ici, vous connaissez au moins une personne défaitiste. Vous pouvez lui demander comment ça va à longueur de journée ou à longueur d'année. Il y a toujours un problème. Vous connaissez tous des personnes comme ça. Mais nous, on doit cultiver la paix dans nos paroles et nos attitudes. Plutôt donner des paroles d'encouragement, avoir une attitude de foi, une attitude qui porte cette paix. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Finalement, c'est ça, être cet artisan de paix, c'est cultiver la paix. Le mot cultiver, inutile d'aller plus loin, dans la définition cultiver, c'est travailler à ça. C'est pas laisser faire les choses, mais c'est les cultiver, mettre ses efforts, faire des efforts pour que la paix reste au travers de nos paroles et de nos attitudes. Alléluia. Refuser la peur et l'agitation. Et il se peut qu'il y ait, à des moments de nos vies, des choses qui nous assaillent. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de revenir dans la présence de Dieu. C'est de revenir dans la présence de Dieu. Vous avez remarqué, à travers ces moments difficiles, on vient dans la présence de Dieu. Il y a comme un nouveau courage qui est là. Des nouvelles paroles sont déposées dans nos cœurs. Et puis, le problème, on le voit différemment. On le voit avec espérance parce qu'on a reçu et on a constaté que le Seigneur est capable d'intervenir de façon miraculeuse. La foi, elle augmente. Et ça se fait dans la présence de Dieu. Et en général, c'est comme ça que ça se passe. C'est que quand traverser des moments difficiles, quand on est dans la peur, dans l'agitation, la première chose que nous avons envie de faire, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Et pourtant, c'est la seule chose essentielle pour retrouver cette paix. Alors, ne soyons pas dans la peur, dans l'agitation, tout ce qui peut se passer, mais retrouvons la présence de Dieu. Et vous savez que quand on, quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, ou qui a passé du temps dans la présence de Dieu, vous savez que ça se voit même physiquement. On est rayonnant. Ce que nous dit la parole. Vous vous rappelez l'histoire de Moïse? Il allait dans la présence de Dieu quand il revenait. Il ne savait pas, lui. Quand il descendait, il rayonnait. Et là, au travers de cet exemple, il a pu le communiquer à Josué qui lui regardait de loin. Donc la relation que Moïse avait avec Dieu. Et c'est là, en fait, qu'a commencé à naître le cœur de Josué, le combattant de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis le troisième provision de Dieu, il y aurait eu tellement, je l'ai dit tout à l'heure, il veut nous donner la puissance, la provision pour notre avenir, la puissance qui vient d'en haut. Il y a la promesse de Jésus. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Encore aujourd'hui, nous, l'Église de Toulouse-Saint-Agne, vous qui êtes là ce matin, on peut bénir le Seigneur parce que oui, la parole, elle est venue jusqu'à nous et le Saint-Esprit, nous l'avons reçu comme la puissance de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Donc le Saint-Esprit est survenant sur vous pour une raison. Vous serez mes témoins. Un témoin, inutile de vous dire à quoi il sert. Un témoin, déjà, peut-être, il peut nous servir d'alerte. Un témoin dans un véhicule, il y a un danger, il nous alerte. Un témoin, c'est également de constater et de pouvoir proclamer qu'il s'est passé quelque chose et de certifier que ces choses-là sont arrivées et que c'est réel pour sa vie. Amen. Je me souviens, un jour, je faisais des examens médicaux. Et puis, j'étais allé, je ne sais pas si je vous l'avais raconté, c'était mois de juillet, août. Et puis, j'étais allé, on va dire, en tenue légère, donc claquette. J'avais un examen. Et puis, la personne, donc le docteur qui était là, il me dit, je vois que vous êtes pasteur. Et j'ai dit, oui. Il me dit, vous n'avez pas l'allure d'un pasteur. J'ai dit, je peux vous expliquer, si j'ai pas l'allure d'un pasteur, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie. Est-ce que vous permettez que je vous explique ce qui s'est passé dans ma vie? Il y a eu une avant, il y a eu une après. Oui, allez-y. Et puis là, pendant qu'il faisait ses tests, j'ai commencé à dire, mais vous savez, je suis né dans une famille chrétienne, le Seigneur est intervenu de façon miraculeuse. Alors, imaginez la scène, allongé, et puis en train de témoigner de la grâce du Seigneur. Et ça, on peut le faire que simplement revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Souvent, on a réduit cette puissance pour essayer d'impressionner. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir sur les réseaux. Certaines personnes qui profèrent et proclament la puissance avec des choses farfelues, voilà, pour essayer d'impressionner. Mais la puissance, elle n'est pas pour impressionner. La puissance, elle nous est donnée pour accomplir une mission. Si je vous avais demandé, donnez-moi la définition de la puissance biblique. On prie pour les malades sont guéris, les démons sont chassés. Bien sûr que ça fait partie de la puissance. Quelqu'un qui, dans son domaine, dans son cercle de travail, dans sa famille, qui n'ouvre pas la bouche, mais qui, par son témoignage, par ce qu'il est, par ce qu'il dégage, par le Saint-Esprit au milieu, à l'intérieur de sa personne, alors je peux dire qu'il est rempli du Saint-Esprit, qu'il a la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez ? Des fois, nous, on réduit ces choses, la puissance du Saint-Esprit, c'est des choses spectaculaires. Ça peut arriver des fois, hein, on le retrouve dans la Bible. Hein. Vous me l'avez entendu dire. Si c'était pas dans la Bible, on aurait du mal à croire à certaines histoires. Mais la puissance, elle est là pour nous déstabiliser également et pour nous faire comprendre que Dieu est au-dessus de tout. La puissance, ce n'est pas pour impressionner, mais pour accomplir sa mission, la mission que le Seigneur laisse dans nos cœurs. La puissance, pourquoi ? Pour vaincre. Pour vaincre quoi ? Le péché. Il y a des choses, des fois, qui me dépassent. Quand certaines personnes continuent et restent dans leur péché, dans leur état de péché, ils continuent donc de pécher, d'être au même endroit, alors et qui, de notre côté, disent « Mais moi, je suis au Seigneur, rempli du Saint-Esprit. » Alors, des fois, je me dis, mais il y a comme un mystère. Hein, c'est un mystère. Parce que la puissance... Le Saint-Esprit, il nous est donné pour vaincre le péché. On a tous la capacité de résister au péché, en étant revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La puissance pour vaincre le péché. Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, boum, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Amen. Donc, vaincre le péché, la puissance pour vaincre le péché, la puissance pour résister à l'ennemi également. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous voyez, au travers de ce verset, qui est simple, hein, simple à retenir. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Premièrement, se soumettre. Deuxièmement, résister. Et puis, si on fait ces choses-là, alors, il fuira loin de vous. Alléluia. Certains disent, mais je ne peux pas, c'est au-delà de mes forces. C'est faux, c'est parce que dit ce verset. Donc, persévérer, résister à l'ennemi, et puis persévérer également dans les épreuves. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détruit. On est d'accord avec ça ? Et oui, il se détruit, hein, l'être extérieur. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder certaines photos d'une certaine époque. Et puis, vous les comparez à maintenant, vous allez vite vous apercevoir que le temps fait une œuvre de destruction. Voilà, massive. Hein. Donc, extérieur se détruit. Notre être intérieur, il se renouvelle de jour en jour. Amen. Et c'est là, ça me fait penser à ce verset. On rajeunit comme l'aigle. Alléluia. Merci Seigneur pour les aigles de Toulouse-Saint-Agne. Certains comprennent pas. Ce matin, je suis allé à l'église. Je me suis fait insulter. On m'a dit que j'étais un aigle. Non, c'est la Bible qui le dit. Hein. En fait, on rajeunit comme l'aigle. C'est cette image, en fait, pour nous faire comprendre que le Seigneur renouvelle jour après jour nos forces. Alléluia. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles se renouvellent quand ? chaque matin, chaque journée que le Seigneur fait, c'est une nouvelle journée et donc ça se renouvelle dans notre cœur. Alléluia. Donc la persévérer dans les épreuves, la puissance pour servir. Le Seigneur nous donne cette puissance pour servir le Seigneur au travers des dons spirituels. Le Seigneur se sert de chacun d'entre nous. J'ai eu l'occasion de le dire ici, dans une église où juste avant le culte, plusieurs fois, « Pasteur, je peux vous voir ?» Voilà, je recevais quelqu'un dans le bureau avec, m'exposer certaines situations. Il y a ceci, il y a cela. Pendant le culte, un frère au milieu de l'assemblée se lever, apporter un don spirituel. Des fois, je me disais, mais c'est pas possible. Il a caché une caméra dans le bureau. Il a entendu notre conversation. C'était d'une précision remarquable. C'est parce qu'en fait, il était au service. Il se mettait au service de Dieu. Ça n'a rien à voir avec nos capacités. D'ailleurs, c'est là où ça se complique avec nous. Nous, on pense que c'est nous, ça a toujours rapport avec nous. C'est un don. C'est le Seigneur donne. À qui lui demande, à qui il aspire. Est-ce que vous savez que, par exemple, combien il y a de dons ? Question piège. 9. Ne répondez pas au risque de... Voilà, 9 dons dans 3 catégories. Il y a les dons de révélation, de puissance et d'inspiration. Donc, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Deuxième catégorie, guérison, miracle, don de foi. Et puis... d'inspiration, prophétie, diversité des langues et l'interprétation des langues. Alléluia. Amen. Voilà la puissance à quoi elle doit servir. Ce qu'on pourrait appliquer pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Et ça faisait partie un peu du premier message de janvier. Que nous puissions vivre dans la plénitude du Saint-Esprit, pas dans des choses farfelues, mais dans ce que le Seigneur veut nous donner. Alléluia. Amen. Marcher dans l'obéissance, cette puissance, elle va nous servir, elle va nous conduire dans la vérité et mettre nos dons au service du royaume. Juste un petit tableau récapitulatif, en conclusion, des 3 provisions pour toute vie chrétienne. Voilà, tu peux passer. Voilà. Voilà, ce tableau, on a vu les 3 provisions, pardon, paix, puissance. Pourquoi ? Notre passé, notre présent, notre avenir, le résultat, liberté et restauration, assurance et stabilité, victoire et service. Un bon programme pour chacun d'entre nous. Dieu ne nous laisse pas vivre la vie chrétienne par nos propres forces. Il est un Dieu qui pourvoit. Je l'ai dit en introduction, et ces choses-là, nous devons les rechercher. Certaines, nous les avons, c'était pour certains, pour la plupart. C'était simplement un rappel, un message tout simple. C'est simple, ces choses-là, certaines... Je les ai redites, mais je crois que face à la parole de Dieu, nous devons avoir cette attitude. Dire, Seigneur, je veux écouter tes paroles, je veux les appliquer dans ma vie, je veux rechercher ces choses-là, alléluia, parce que le Seigneur va nous donner le pardon pour repartir, la paix pour avancer et la puissance pour accomplir tout ce dont il veut que se servir de chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni, alléluia, amen. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Encore merci pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu pour ce partage. Seigneur, cette parole que tu as déposée dans mon cœur. Oui, tu es le Dieu qui pourvoit. Seigneur, je peux le déclarer, je peux le dire ce matin que tu as pourvu. En tout temps, en toutes circonstances. Seigneur, tu as pourvu pour mon pardon. Tu m'as accordé la paix, Seigneur mon Dieu. Et tu me remplis, Seigneur, de ta puissance. Seigneur, que je puisse garder ces choses dans mon cœur. Et toutes les autres choses que tu vas me donner encore et toujours. Seigneur, je te prie pour mon frère, ma sœur qui est là. Seigneur, que ces paroles servent d'encouragement ce matin. Pas de condamnation, Seigneur mon Dieu, mais au contraire, un but, Seigneur, un objectif à atteindre. Seigneur, nous te demandons vraiment toute ta grâce. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ceux et celles qui ne t'ont pas choisi, ceux et celles qui ne t'ont pas accepté comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, que ce matin, plusieurs puissent prendre cette décision. Alors, tout ce que nous avons vu, Seigneur, tu vas leur accorder le pardon, la paix, et cette puissance qui vient d'en haut. Seigneur, je te remercie maintenant de confirmer ta parole par des actions extraordinaires dans les cœurs, que des vies soient bouleversées, qu'elles soient, Seigneur, changées en ton nom. Seigneur, nous avons prié et tu as entendu toutes nos prières. À toi seul soit toute la gloire. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen.